Alors pour aujourd'hui, je vous propose une interview de Philippe Delvitte. Philippe Delvitte qui est de Fumel, mais qui est actuellement enseignant universitaire à Toulouse et qui, dans ce cadre, a fait un travail sur la navigation sur le Lot. Philippe Delvitte.
J'ai choisi ce sujet d'étude parce qu'il me tenait particulièrement à cœur. D'abord, il faut dire qu'il y avait peu de travaux d'ensemble qui avaient été faits, même aucun travail d'ensemble qui avait été fait justement sur ce sujet. Et donc ensuite, j'ai choisi d'étudier donc le Lot, non seulement dans le Lot-et-Garonne, mais aussi donc tout au long de son cours, et en particulier de son cours navigable, à une époque que je pensais être celle de sa splendeur, c'est-à-dire à l'époque où il y avait d'intenses trafics commerciaux qui animaient justement la rivière. Et donc je veux parler de la période qui précédait la Révolution française. Donc on est dans un grand 18e siècle qui commencerait vers 1680 à peu près, et qui se terminerait vers 1800 ou 1810, l'époque où justement tous ces trafics, en particulier celui du vin de Cahors, ou celui des farines, hein, ou celui des bois de construction, eh bien, est en train de s'effondrer, puisque le débouché par l'Atlantique, donc par Bordeaux, puisque le Lot évidemment est relié à l'Atlantique par la Garonne, eh bien, tous ces trafics donc, sont en train de s'effondrer et ne reviendront pas. Moi, je ne me suis pas intéressé, donc, ou très peu, sinon dans la conclusion, au trafic du 19e siècle, mais disons que je connais quand même, je trouve que c'est une problématique qui était aussi très passionnante, mais tout à fait différente.
D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un historique assez sommaire de la navigation sur le Lot? Est-ce qu'il y a toujours eu une navigation dans les temps les plus anciens? Enfin, jusqu'à quelle époque trouve-t-on des documents?
Alors des documents, eh bien, on en trouve très haut dans le temps. Hein, au Moyen-Âge, on en trouve, je ne dirais pas en quantité, mais disons qu'il y en a, et il y en a quand même d'assez nombreux. Et je crois que pour bien cadrer le problème, il faut se dire que la navigation, elle existe sur ce qu'on pourrait appeler un peu simplement des pipis de chat, même y compris dans la région, à partir du moment où justement la route est très défaillante, c'est-à-dire que les voies terrestres sont soit peu utilisées, soit tout à fait inexistantes, parce qu'elles ne sont pas entretenues ou pas construites du tout. Bon, ici on est donc dans la région de Fumel, et la route qui va de Fumel à Cahors, ou de Villeneuve-sur-Lot à Cahors, c'est une création du 18e siècle. Avant, il y avait très peu de choses, c'était des sentiers muletiers pour la majorité. Et plus on monte justement vers l'amont, donc plus on monte vers la source du Lot, plus il est difficile de circuler par terre. Alors fatalement, la rivière, elle a un rôle tout à fait important. Et pour ce qui est du Lot, il est navigué, donc pratiqué de manière très, très constante et tout à fait régulière, dès Entraigues, c'est-à-dire plus de 200 km en amont par rapport à nous, et ce qui pour les gens du pays actuellement représente presque un autre monde, c'est-à-dire c'est très très haut là-bas vers l'est, vers le massif central.
Par la route, avant 1750, on faisait quelle distance dans une journée?
Bon, d'abord, différent si on était, suivant qu'on soit en été ou en hiver, c'est-à-dire que lorsqu'on circule en hiver, on est très défavorisé parce que, d'abord, les routes sont, je l'ai dit, très mal entretenues. Donc, fatalement, si le terrain qui entoure la route est bon, c'est-à-dire si c'est une route en sol naturel, en terre, donc les routes sont évidemment ni goudronnées, ni pavées, elles sont rarement empierrées, sauf évidemment quand on est sur le Cos, en hiver, ce sont de véritables fondrières. Hein. Et disons qu'en hiver, on peut faire 4 lieues à peu près par jour, ça fait à peu près 16 km. Et en été, ça peut monter à 20 km par jour, mais toujours très difficile, avec beaucoup de chaos, donc les marchandises fragiles sont très défavorisées.
Alors, le transport par le Lot, dans notre cas, était bien plus rapide.
Alors, le transport par le Lot, lorsque les conditions étaient favorables, c'est-à-dire lorsqu'il y avait de l'eau, et donc pas en été, hein, au moment justement de l'étiage d'été, par le Lot, c'est évidemment beaucoup plus favorable. C'est ainsi que, on peut citer qu'un exemple pour bien faire sentir la différence, partant de crue moyenne, l'époque bénie, je dirais, par les maîtres de bateaux, une gabarre, donc un bateau parti du Rouergue, donc de la région d'Entraigues, hein, ou de la région de ce qui est actuellement de Casseville, met une petite dizaine d'heures ou une petite douzaine d'heures pour arriver à Puy-l'Évêque ou pour arriver sur Fumel, c'est-à-dire pour couvrir à peu près, grosso modo, entre 150 et 200 km. Donc tout ça en une journée. Donc on voit la différence avec les chiffres que je citais tout à l'heure.
Oui. On naviguait bien à certaines époques, mais à d'autres époques, c'était très difficile, impossible peut-être.
Oui, c'était en particulier dans le haut de la rivière. Donc, pour ce qui est du Rouergue et puis un peu du Quercy aussi, la navigation était très difficile, en particulier en août et en septembre, parce qu'il y avait effectivement très peu d'eau. Mais ici, donc, dans ce qui est actuellement le Lot-et-Garonne, ce qu'on appelait la Genêt avant, par contre, c'était beaucoup plus favorable. D'abord, il y a beaucoup plus d'eau, et ensuite, les seuils rocheux, à part celui de Lustrac, sont pratiquement inexistants. Donc, à partir de Villeneuve-sur-Lot, on navigue pratiquement toute l'année.
Oui, c'était quand même une navigation assez dangereuse.
Oui, une navigation dangereuse parce que les ouvrages de navigation qu'on voit donc encore actuellement étaient bien moins perfectionnés que ceux du 19e siècle. Ça ne ressemblait pas du tout à la navigation qu'on peut voir sur le canal du Midi actuellement, donc qui est essentiellement actuellement une navigation de plaisance. Bon, c'était fort dangereux, en particulier donc dans le haut de la rivière, où ça s'apparentait pratiquement souvent à du canotage très sportif, mais avec des embarcations qui faisaient une trentaine de mètres de long.
Justement, alors, est-ce qu'on peut retracer l'évolution des embarcations et parallèlement peut-être l'évolution des équipements de la rivière?
Oui, c'est assez facile. Donc, je dirais que les bateaux étaient d'abord, c'est presque évident, tout construits en bois, et qu'ils avaient une forme bien particulière. Disons, jusque dans les années 1850, ça ne ressemble pas du tout aux péniches qu'on voit circuler sur les rivières actuellement. Donc, c'est des bateaux qui sont arrivés à une très haute technologie, mais d'une civilisation du bois, et qui sont très adaptés à ce qu'on leur demande. C'est-à-dire...
On les appelle des gabarros, ces bateaux?
Alors, gabar, c'est le terme occitan, hein, mais très souvent on les appelle bateaux, simplement. La gabar, c'est un terme qui va se généraliser à la fin du XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, c'est des termes qui viennent justement du bassin de la Garonne, ce qu'on appelle des sapines, hein, donc qui contaminent, si vous voulez, les appellations du haut de la rivière. Donc soit des sapines, soit des postes, soit donc toute une série d'appellations qu'on trouve justement dans la basse vallée.
Jusqu'au début du XIXe, alors les bateaux sont pratiquement tout bois.
Alors c'est tout bois. C'est du tout bois, donc avec une proue très relevée, un très très long gouvernail de queue qui dépasse de plus de 10 mètres l'arrière du bateau, justement parce que ça joue le rôle de bras de levier. Et cette longueur permet d'éviter l'utilisation de fer, donc de métal, qui est un produit d'abord cher à fabriquer parce qu'il faut énormément de combustible, difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut des techniciens très, très spécifiques. Et donc on fait tout ça avec des chevilles, avec des cordages en chanvre.
La longueur du bateau lui-même.
Alors des bateaux, il y en a évidemment de toutes les tailles, hein. Il y a des petits batelets qui peuvent faire 3-4 mètres, mais disons que la taille moyenne, c'est aux alentours de 15-20 mètres, et on peut trouver des unités qui font 22-23 mètres.
À partir du siècle dernier, on a alors des péniches qui ressemblent à ce qu'on peut voir à l'heure actuelle.
Alors à partir des années 1850, quand le Lot justement est amélioré, est donc couvert du réseau d'écluses qu'on voit actuellement, parce que ça date essentiellement de Louis-Philippe, donc de ce qu'on appelle la monarchie de Juillet, et bien à ce moment-là, il y a une standardisation des formes, c'est-à-dire qu'on oublie un peu les formes indigènes, celles qui étaient produites, si vous voulez, sur place. Donc il y a un approvisionnement en bois en particulier qui est beaucoup plus facile. Il y a des consignes qui sont données par les ingénieurs des ponts et chaussées, le service de la navigation. Alors à ce moment-là, effectivement, ça ressemble beaucoup aux péniches qu'on voyait sur le canal du Midi encore il y a quelques années, donc des péniches qui sont en bois avec un gouvernail très court.